Sarah Milo est là également. Sarah, bonjour.
Bonjour.
Le réseau de la santé en Estrie tenait un point de presse, mais plus spécifiquement sur des études menées concernant la conduite automobile versus un pied dans le plâtre. C'est-tu comme ça? Ben, c'est comme ça que tu me l'as présenté.
Exactement. Très vite résumé, ouais. C'est exactement ça. J'ai senti ton scepticisme dans tout ça. Donc, la question, en fait, qui était posée, c'est « Un patient est-il apte à conduire sa voiture après une opération à un pied, à une cheville ou lorsqu'il a un plâtre? » Donc là, évidemment, quand on entend cette question-là, on se pose énormément de questions. Et avant, ce qui a été présenté aujourd'hui par le Centre de recherche du CHU, eh bien, les médecins référaient aux assureurs pour déterminer si c'était correct ou pas, puis les assureurs référaient aux médecins. Donc, résultat, on n'avait pas vraiment de moyen de savoir si on était prêt à reprendre le volant.
Oui, mais ça ne doit pas dépendre des gens, de la condition.
Exactement.
De la botte, Quand je parle de botte, là, c'est entre autres les plâtres, mais aussi souvent maintenant, ils mettent des bottes.
Il y a un peu de tout ça.
Okay.
On n'avait pas de données scientifiques sur le sujet. Il était là le problème. Donc, le docteur François Cabana, qui est notamment chirurgien orthopédiste au CIUS de l'Estrichus, s'est penché sur la question avec une équipe qui est composée notamment de membres du Centre de recherche sur le vieillissement. Et il y a notamment Hélène Corriveau, qui est professeure-chercheure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, et une panoplie de spécialistes qui est dans ces deux équipes. On pense à des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens notamment. Donc, l'objectif étant d'avoir des données de sujets, en fait, sur les... Bref, des données pour des sujets qui sont immobilisés, donc qui ont un plâtre, et d'autres qui sont sains, donc pour comparer plusieurs données. Donc, c'est pour ça qu'on a mis au point un simulateur de conduite pour pouvoir aller justement chercher ces échantillons-là. Donc, dans l'équipe, il y a d'ailleurs Mathieu Hamel, qui est ingénieur biomédical du Centre de recherche sur le vieillissement. Et comme vous pourrez le constater, il s'agit de l'aboutissement d'un travail de très longue haleine.
On a reproduit un peu ce qu'on a mené comme étude il y a plus de 10 ans maintenant. Au fil du temps, on avait instrumenté une voiture pour faire des tests en circuit fermé sur la route. Au fil du temps, bien, on a voulu valider que les données qu'on recueillait dans une version simulateur en laboratoire étaient aussi valides que ce qu'on avait en conduite automobile. Et donc, on a construit ce simulateur-là pour arriver à avoir les mêmes mesures, une version simplifiée.
Donc, concrètement, c'est si on pourrait dire une voiture. Dans le fond, c'est vraiment avec un volant, avec la pédale de frein, la pédale d'accélérateur. Puis c'est pas un simulateur de jeux vidéo 3D. Là, ça n'a rien de très, très techno.
Non.
Mais on va vraiment chercher, en fait, on pourrait dire deux bandes de couleurs qui sont bleues. Et on va demander notamment à la personne d'appuyer sur le frein de manière subite lorsqu'il va avoir un cercle qui va apparaître. Donc, concrètement, en fait, pour vraiment avoir un détail de comment se passe le fameux test en question, je vous invite à écouter la coordonnatrice de recherche au service d'orthopédie, qui est Sonia Bédard, qui va expliquer les divers tests qui sont effectués.
En fait, ce simulateur-là nous permet de prendre les données sur la force de freinage et sur la réaction de freinage. Donc, c'est vraiment décortiqué par notre équipe d'ingénieurs d'aller chercher le moment où les gens retire la pression de la pédale d'accélérateur, commence à appuyer sur le frein jusqu'à la fin du freinage. Donc, c'est vraiment décortiqué en différentes étapes. Bien, c'est qu'on fait vraiment différents tests, soit de peser le plus fort possible sur le frein, et aussi on fait des tests de passer de l'accélérateur au freinage avec une indication subite. Et on le fait aussi avec une distraction pour ajouter une distraction au volant, comme on peut avoir un peu à tous les jours. Mais à ce moment-là, avec une distraction, mesurer l'impact là, de la différence de temps de freinage, le temps total de freinage.
Là, évidemment, donc pour récolter les données, on a fait appel à peu près plus de 100 patients qui avaient...
Plâtré,
fracture au pied ou de la cheville, et ceux qui, à peu près 120 personnes, qui elles, étaient correctes. Et là, évidemment, le but n'était pas de leur donner un pronostic de dire vous êtes capable de conduire ou non. Donc, vraiment, le but, c'est d'avoir un échantillonnage fiable. Mais on leur demandait quand même est-ce qu'ils étaient aptes à conduire. Est-ce qu'ils se sentaient du moins aptes? Puis beaucoup disaient, j'ai trouvé ça difficile parce qu'avec la fameuse botte, je sentais pas bien la pédale. Des fois, je me sentais accrocher le frein en même temps. Donc, visiblement, je ne l'étais pas prêt. Donc, c'est très intéressant, en fait, même les gens,
mais,
les introspections
que
je faisais.
On va en venir à quoi avec ça? Est-ce que ça va devenir un module test pour dire aux gens qui ont un plâtre, toi, tu peux pas conduire parce que t'as pas passé le test? Dans le sens que, installe-toi dans le module, on va te faire passer le test. Et si tu réussis pas, la recommandation qui t'est faite par ton médecin, ne conduis pas. C'est ça?
Ben, en fait, c'est vraiment une recommandation qui va être faite, mais il y a tout le côté, le volet aussi avec l'assurance automobile du Québec, donc la SAC. Et puis, c'est ce que j'ai demandé d'ailleurs au docteur François Cabana, donc qui a fait la recherche. Donc, est-ce que ces données-là vont être reconnues par la SAC? Est-ce qu'eux vont considérer que si la recommandation est faite, on peut y aller sur la route? Alors, je vous laisse, le docteur Cabana, répondre à cette question.
Le code de la route stipule depuis sa dernière révision qu'il n'est pas recommandé de conduire avec une immobilisation. Et lors de la révision du code, moi, j'étais comme consultant pour la révision du code pour les atteintes musculo-squelettiques, donc les fractures, les problèmes musculaires, etc. Alors, j'ai fait un rapport complet en précisant que nous, comme médecins, on ne pouvait pas statuer encore parce qu'on n'avait pas les appuis scientifiques pour ça. Ce qui nous a un peu stimulés à poursuivre nos recherches parce qu'on s'est dit, bien là, on fait des recommandations sans appui scientifique pour appuyer ces dires-là. Donc, c'est un peu une raison supplémentaire pour nous de continuer à faire des recherches comme ça.
Donc, pour répondre à ta question, Martin, finalement, avec le changement donc de réglementation de l'assurance automobile du Québec, c'est un peu plus difficile. Donc, oui, le docteur Cabana a émis des recommandations. Puis c'est ce qui pousse d'ailleurs les recherches à aller plus loin pour vraiment donner un côté scientifique à la chose pour déterminer vraiment si c'est possible de conduire ou pas. Donc, d'avoir vraiment une assise sur des données concrètes et non juste sur une impression. Donc, c'est encore assez embryonnaire tout ça. Mais du moins pour la recherche, ça avance puisque la phase d'analyse des données est maintenant terminée. Donc, on en est à déterminer pour les données, un peu comme les balises de tout ça. Par exemple, si on dit que c'est pas sécuritaire de conduire, à partir de quand ça va être maintenant correct de le faire? Parce que ça, c'est un autre facteur aussi à déterminer le temps là, dans tout ça. Parce que
Au niveau de la réhabilitation.
La réhabilitation de la chose.
C'est-tu après un jour que tu as le plaid que tu peux, puis sinon, ben, c'est après tant de jours. Ça dépend aussi de la gravité de la blessure, de la cassure, de la foulure ou du reste. Là.
Exactement. Puis puisque chaque cas est unique, c'est difficile à évaluer. Ouais. C'est pour ça qu'avoir des données pour évaluer tout ça va pouvoir aider à se donner des points de repère.
Mais j'ai encore ma face de chevreuil. OK? J'essaie juste de comprendre. Ça fait des années qu'ils étudient ça.
Oui.
Puis je t'en ai avec ma question. Là. C'est peut-être moi qui ai mal compris, là. Mais on veut en venir à avoir un test qui sera une recommandation de médecin et qui sera peut-être aussi reconnu par, mettons, la SAC?
Ben, dis-moi, on veut une recommandation du médecin qui va pouvoir appuyer la demande du conducteur ou, au contraire aussi, ne pas l'appuyer. Ça va dépendre vraiment de ce qui va être déterminé. Bon, on veut surtout que...
Donc, c'est un test qu'on souhaite développer pour le donner. Si oui ou non, on est capable, avec un plâtre dans le biais... Ben pas dans le pied, mais autour du pied ou de la jambe, si on est apte à conduire.
Oui, exactement.
C'est ça?
Oui.
OK. Phew. J'ai compris.
Mais effectivement, c'est plus difficile, puis il faut vulgariser le tout, étant donné que c'est très technique. Mm-hmm. Il y a d'ailleurs d'autres études qui se font en parallèle avec les fractures du poignet. Donc, on va vérifier pour tourner le volant rapidement s'il y a un obstacle. C'est le même genre de test qui va se faire.
Remarque qu'il y a des gens qui n'ont pas de plâtre, là, puis...
ça, c'est un autre problème.
Ouais.
À suivre la semaine prochaine.
Oui. Mais le test se fait uniquement pour voiture automatique.
Oui.
De ce que j'ai compris,
il n'y a pas
de manuel.
Non, le simulateur, c'est vraiment uniquement parce que le simulateur, tout ce qu'il veut constater, c'est est-ce qu'on est capable de freiner rapidement, est-ce qu'on est capable de réagir rapidement.
Oui.
Mais là, c'est sûr
la
que
mobilité.
Le côté, ouais, la mobilité, mais le côté manuel n'a pas été évalué,
non. Mais encore là, il me semble qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. T'sais. On le disait tantôt, ça dépend de la blessure, ça dépend de la grosseur du plâtre, ça dépend... Puis le module étant une chose, la voiture de la personne en étant une autre, c'est spécial.
Et ça va être une aide, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, donc on veut en fait établir certaines balises.
Tu sais, c'est pas bête quand même comme recherche, là. Mais c'est spécial.
Mais ça l'est, mais effectivement, on peut penser que ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus.
Les joues, 10 ans?
Donc, on a commencé à penser à ça, puis à développer le tout. Parce que ça reste quand même que la question demeurait. Puis que
parce qu'il y a bien des gens qui partent de l'hôpital avec leur plâtre dans le pied puis sont derrière le volant. Là.
Exactement.
Ah, je suis capable! Ben oui, c'est sûr.
Donc là, au moins, on va se baser sur quelque chose.
Ben oui, de ce que je comprends, c'est que les médecins veulent se donner, avec ces recherches-là, un appui pour venir dire à des gens « Tu ne dois pas conduire ».
Exact.
C'est un peu ça.
Oui.
Ils veulent se backer. OK.
C'est pas mauvais non plus.
Oui, non, je comprends, mais en même temps.
Et en terminant d'ailleurs.
C'est la responsabilité aussi de la personne qui décide de prendre place derrière un volant alors qu'elle sort d'hôpital avec un plâtre.
Mais je te rappelle, Martin, que plus tard que cette semaine, on a eu une première petite tempête et puis qu'il y avait encore des gens qui ont décidé que c'était une bonne idée de prendre leur voiture avec pneus l'été. Donc, des fois, ça fait sur le gros bon sens des gens, c'est moyen.
Ça dépend du pneu, là. Pneu ça la fesse, pneu quatre saisons, ça dépend.
C'est différent.
Ça dépend. Merci.
Avec plaisir.